plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Elle est née à Tunis, mais a fait ses études en France, et voilà qu'elle retraverse la Méditerranée pour exercer dans son pays d'origine, persuadée d'y être utile après la Révolution. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Selma est psychanalyste et va installer son divan à Tunis. Les débuts sont épiques, mais au lendemain de la Révolution en Tunisie, les besoins sont immenses. Selma découvrira qu'il ne suffit pas de rendre un service nécessaire pour exercer, car il lui manque une autorisation de pratique. Un divan à Tunis, c'est le titre d'une comédie rafraîchissante. On en parle dans quelques secondes avec la réalisatrice Manel Labidi et l'actrice principale Golshifteh Farahani. Un divan à Tunis traite de l'histoire en train de s'écrire. Et un autre film que nous mettons en exergue cette semaine, Lettre à Franco, rappelle le passé. Après plusieurs années à Hollywood, Alejandro Amenábar retourne en Espagne convoquer les fantômes de la guerre civile. Et puis, certains s'emparent de l'histoire pour mieux la tourner en dérision. C'est le cas de la licence OSS 117. Nicolas Bedos vient d'achever au Kenya le tournage du troisième épisode. Reportage en coulisses. Comment vit-on dans un pays schizophrène ? N'y a-t-il pas un besoin massif de psychanalystes pour recueillir une parole longtemps tue, réprimée, refoulée ? Partant de ce principe, une trentenaire franco-tunisienne, Selma, décide de retourner dans son pays d'origine pour ouvrir un cabinet dans une banlieue populaire de Tunis. Et c'est elle qui va bientôt risquer de perdre la boule. Bonjour Manel Labidi.
Bonjour.
Voilà le point de départ de votre premier film, Un divan à Tunis, qui sort en salle après avoir été présenté à la Mostra de Venise dans la section Journée des auteurs, où il a remporté le prix du public et puis il a été aussi projeté au Festival de Toronto. À vos côtés, Golshifteh Farahani, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui incarnez Selma, donc la psychanalyste pleine d'entrain qui va tout d'abord rencontrer le succès avant de se heurtée au mystère de l'administration tunisienne. Alors vous avez accepté le principe de l'émission, à savoir commenter les cinq premières minutes, la première bobine du film Un divan à Tunis. Le film, on rentre d'abord par le son, le son des rues de Tunis, puis on vous voit de dos, Golshifteh Farahani, avec un homme. On voit que vous avez un tatouage dans le cou. Alors, je sais pas, c'est celui de Selma, c'est le vôtre ?
C'est celui de Selma.
Et ça représente quoi ?
Il vaut mieux que Manel il explique c'est les tatouages.
En fait, ce sont des tatouages berbères. Et c'est vrai que bon, c'est un petit détail. Comme vous dites, on ne sait pas si c'est celui de Golshifteh ou celui de Selma, mais ça faisait partie du personnage que d'avoir ce personnage tatoué. C'est vrai qu'elle a, le symbole, on va dire, de la communauté berbère qu'on appelle la communauté Amazigh. C'est l'homme libre qu'elle a tatoué de chaque côté de son poignet. Et voilà, donc c'est pour ceux qui connaissent cette communauté, évidemment, ça, ce symbole, il est mythique. Et puis, je trouvais que ça caractérisait bien le personnage qu'on...
Moi aussi, j'aimais bien quand je le mettais chaque matin. Donc, alors, on rentre dedans. Ouais.
Mais c'est important parce que ça, à plusieurs reprises au cours du film, on lui dit, sans être forcément d'ailleurs hostile, ses interlocuteurs ne l'agressent pas là-dessus, mais ils lui disent quand même, t'es une femme célibataire et tatouée. Le tatouage, ça marque son indépendance aussi.
Ouais, comme si elle fume aussi en temps. Aussi, elle a des cheveux courts, bouclés, c'est encore pire.
Et pas beaucoup de maquillage, quasiment pas.
Et pas beaucoup de maquillage, quasiment pas. Ouais. Ça, c'est quasiment une pute.
Non, disons qu'elle est, très, enfin, de par son apparence, elle transgresse sans, comment dire, sans rentrer dans la provocation. Mais c'est vrai qu'entre le tatouage, la clope, les cheveux courts, pas de maquillage, bouclé, célibataire, psychanalyse, ça fait beaucoup. Elle est très chargée.
Ouais.
C'est ton père ? Alors c'est ton grand-père. Sa tête me dit quelque chose.
Alors les deux personnages, donc l'homme et Selma, parlent de quelque chose qu'ils voient que nous, spectateurs, on ne voit pas dans un premier temps. Un dialogue s'instaure et donc l'homme demande à Selma si ce qu'il voit là, on ne sait pas ce que c'est son père ou peut-être son grand-père.
Oui, il y a ce tableau un peu modifié, je veux dire, c'est une photo. Et il est très curieux parce qu'il dit, c'est qui cet homme? C'est ton grand-père? C'est ton patron? Et voilà, finalement, c'est...
Il dit, c'est mon patron et il est juif.
Il est juif.
Juif? Ça va pas, toi? Hein? Rudbelk, hein? Tu vas avoir des ennuis avec les voisins.
Oui, et il est juif.
Elle est un peu provoque.
Oui, bien sûr. Mais bon, quand à la fin on voit le tableau, je dois dire ou pas? C'est suspense.
Ah bah, on peut le dire.
Voilà, c'est Freud.
Mais c'est pas qu'elle n'importe quelle représentation de Freud, hein, parce qu'il a un fez, c'est ça?
Oui, ça, on appelle ça chéchi en Tunisie. C'est effectivement ce chapeau traditionnel qu'on a...
Voilà,
il est présent en Turquie aussi, exactement. C'est un photomontage que j'ai créé à l'époque quand je travaillais sur le scénario du film et qui était un peu le
pitch.
Ouais, c'est ça, le film en fait. C'est-à-dire que on prend Freud et puis on lui met un accessoire de la tradition tunisienne, arabo-musulmane, on dirait au sens large. Et puis, on voit ce que ça donne.
C'est une formidable entrée en matière, hein, ce suspense. Et puis, tout à coup, voir Freud. Ça vous est venu tout de suite?
Vous voulez dire cette photo?
Ouais. L'idée d'entrer en matière.
En fait, alors moi, j'aime bien dans les films, quand il y a un prologue quelque part qui résume l'enjeu, on va dire, ou un des enjeux du film. Et je me suis dit, ça serait bien d'arriver à... Et puis après, voilà, le tableau, je l'avais déjà mis un peu dans mes planches, on va dire, d'inspiration. Et voilà, et c'est venu à ce moment-là.
Puis le titre du film apparaît, donc Un divan à Tunis, sur de la musique. Alors c'est quoi ce titre? C'est très beau, je ne sais pas si c'est d'espagnol.
C'est d'italien, c'est une chanson de Mina qui ouvre le film et qui clôture le film. C'est la même interprète, c'est une chanteuse de variété italienne, enfin la plus grande chanteuse de variété italienne encore vivante d'ailleurs. Et ce choix-là, bah, en fait, il est venu, je pense, pour deux raisons. D'une part, je m'étais dit, voilà, le pari dans ce film, c'est de ne pas utiliser de la musique orientalisante, orientale, juste pour habiller le film, parce que c'est la première chose à laquelle on pense quand on veut habiller un film arabe, on pense à de la musique arabe. Mais je me suis dit, tiens, on va essayer de prendre un autre virage. Et j'avais envie d'une chanson italienne, parce que l'Italie, c'est culturellement très très présent en Tunisie. Les Tunisiens ont longtemps été bercés par la Rai Uno et par Antenne 2. En fait, c'était un peu la France et l'Italie qui étaient là pour animer, on va dire, les soirées des uns et des autres. Et ce que j'aime dans Mina, c'est ce mélange à la fois de mélancolie dans la voix, de nostalgie, de gravité, et en même temps, il y a une forte vitalité et une énergie qui résumait bien, je trouve, l'ambiance que j'avais envie de retranscrire.
C'est la musique qui accompagne, hein, sur les images. On voit donc Selma qui emménage. Hein, ça nous permet cette scène de faire connaissance avec son environnement, son voisinage. Une femme voilée, donc on découvrira que c'est sa tante, demande si elle peut mettre du vernis pendant le Ramadan, ce qui est assez cocasse. On est où? On est dans une banlieue populaire de Tunis.
Oui, banlieue du sud.
Absolument. Absolument.
C'est là que vous avez tourné.
C'est là qu'on a tourné, absolument. Ouais, ouais. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est un hasard pur qu'on ait tourné là-bas, parce que il se trouve que c'est là où habite ma famille, où j'ai passé tous mes étés.
Donc c'est pas un hasard.
Si, c'est un hasard, parce que une semaine avant le tournage, on devait tourner à banlieue nord, à l'autre bout, et la maison dans laquelle on devait tourner, nous a échappé, parce que voilà, bon, toujours des questions d'argent. Hein. Et on a dû trouver un autre endroit, et ils nous ont proposé cet endroit.
Freud vous dirait que ce n'est pas un hasard.
C'est pas un hasard. C'est ce que c'est, le destin. Je sais pas, mais en tout cas, je n'ai absolument rien forcé. Et si je l'avais voulu, je pense que je l'aurais pas eu. Donc, oui.
Alors la séquence suivante, c'est qu'on voit Selma installer un canapé sur le toit. avec une femme hein, dont on devine hein, qu'elle est un peu la femme de ménage de la famille. Elle s'installe dans un appartement. Et puis dans la salle de bain, elle entend un bruit, elle entend une musique. Et là, qui elle découvre ?
Oh, baby, na, na, na.
Ulfa, qu'est-ce que tu fais là ?
Quoi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas vivre ici, il paraît.
Ça pose un problème à toi aussi ? C'est quoi ce truc ?
T'es en cavale ?
Regarde-moi ce bazar !
Sa cousine ?
Sa nièce.
Ah, sa nièce.
Sa cousine.
T'as fait une connerie à Paris.
Sa cousine. C'est Manel qui m'a dit ça. Sa cousine. Pour moi, c'était elle, en fait. Elle était ailleurs de toute cette famille. Elle vient d'ailleurs, quand même. Et elle est voilée. Mais en même temps, elle porte une short. Mais on voit pas sa short, mais moi, je voyais. Et c'était très drôle.
C'est drôle de vision.
Oui, beaucoup. Et on voit clairement qu'elle a très envie de partir et elle est un peu déçue que Selma est de retour parce qu'elle avait envie d'aller la rejoindre à Paris. Et là, elle est là, s'installer ici.
Je comptais sur toi pour aller en France après le bac.
Bah, t'as pas besoin de moi, tu peux y aller.
Tu crois vraiment que mes parents vont me laisser ?
À Tunis. Pour elle, c'est une catastrophe.
Elle est un peu à contresens sur l'autoroute, hein, Selma.
Oui. Oui. Comme... oui. Oui.
Tout le monde la regarde un peu bizarrement.
Oui, elle est un peu alien dans son propre pays, comme elle est tunisienne, mais en même temps, personne ne la voit comme une tunisienne. Elle est étrange, elle est bizarre, tout ce qu'elle fait, elle est bizarre. Il y a beaucoup de malentendus, c'est dur à la comprendre, mais finalement, c'est elle qui a la clé pour aider beaucoup de gens.
Tu peux pas faire entrer des fois à la maison. Moi, j'ai 3 filles. Il fallait en âge de procréer, elle a la peau claire.
On n'est pas en Europe, Anara.
Séquence suivante, Selma parle donc à son oncle et à sa tante pour les rassurer. Ils sont tous les trois dans une voiture. Son oncle, enfin, effectivement, et ce n'est pas les seuls, hein, tout le monde est abasourdi par sa décision, elle qui vit en France depuis au moins 20 ans, de retourner en Tunisie, installer un divan de psychanalyste pour lui demander si tu crois que les Arabes vont payer pour venir te voir. Ça semble totalement abracadabrantesque. Ouais. Bah, y a pas de tradition de psychanalyse.
Non, y a pas de tradition. Et puis c'est vrai que là, on se situe dans la classe moyenne tunisienne, lettrée, mais on va dire pas intellectuelle ni bourgeoise. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui fait l'objet comme ça de réticence. En fait, y a deux choses qui surprennent. C'est déjà sa décision de venir en Tunisie, comme vous dites, alors que tout le monde essaye de fuir, enfin de fuir en tout cas d'échapper à la crise et à l'incertitude et puis et surtout ce projet de monter un cabinet pour son oncle à ce moment-là, enfin elle perd son temps. Enfin d'ailleurs il lui dit ça bon avec une espèce de condescendance, mais quelque part il veut son bien et il lui dit bah tu vas te casser les dents et puis dans 2 semaines tu repartiras tranquillement, je te ramènerai à l'aéroport et puis on n'en parlera plus. Mais il y a quelque chose comme ça pour lui d'inconcevable que les Tunisiens se bousculent pour l'avoir, qu'elle fasse sa vie, qu'elle réussisse et comme il le dit ils ont Dieu, donc pourquoi un psy finalement ?
Mais vous avez l'impression d'avoir un petit peu forcé le trait ou pas du tout ?
Non, j'ai pas l'impression parce que c'est vrai que il y a des situations dans le film qui pour beaucoup
parce qu'il y a des psychanalystes hein, quand même.
Bien sûr, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez contenu dans certains quartiers, on va dire dans des quartiers quand même plus favorisés, plus aisés. Il y a des psychologues, il y a de la psychothérapie, tout ça existe. Et puis d'ailleurs, dans le film, à aucun moment je dis que la population va arriver complètement naïve et en opposition. Au contraire, le bouche à oreille marche et les gens viennent. C'est que déjà il y a une connaissance quand même de cette discipline et surtout il y a une demande et que si jamais une psy comme Goldshifté, Selma, s'installait dans ce quartier-là, je pense qu'elle aurait également du succès.
Même par curiosité au début, mais après le travail, après les gens, comme dans le film, ils voient qu'ils ont besoin d'elle un peu. Et c'est génial, parce que tout le monde dit, mais tout le monde parle ici, mais qui écoute ? Alors il y a une personne qui écoute, ouais. Et ça c'est déjà génial.
Goldshifté Farahani, vous qui avez quitté l'Iran il y a une dizaine d'années pour venir travailler, vivre en France, j'imagine que cette situation, donc la Tunisie, ce pays qui s'est libéré de décennies de dictature, mais qui semble aussi schizophrène, dont les habitants semblent totalement pris dans une sorte de schizophrénie, ça doit vous parler presque intimement à vous.
Moi, je crois que si un jour je retourne en Iran, peut-être que oui, parce que je vais aussi me trouver... au milieu de mon pays à moi, mais comme une étrangère, parce que j'ai pas vécu pendant toutes ces années-là, je sais pas, là c'est 11 ans, ça peut être 20, 30, je sais pas combien d'années, mais je veux aussi me trouver comme Selma, comme une étrangère, en même temps que très tunisienne, comme elle. Elle est quand même, son sang et son chair est de Tunisie, comme ses parents, tout ce qu'elle a vécu. Bien sûr qu'elle est venue à Paris, elle a, et peut-être ici aussi, elle se sentait un tout petit peu comme une étrangère. Mais oui, elle est là et elle cherche quelque chose qui elle pense qu'elle a perdu. Et on voit petit à petit en elle aussi, parce que elle aussi, elle porte un secret. Elle a une histoire en elle aussi qu'on voit à côté de toutes ces histoires-là qu'elle a avec ses patients. Elle aussi, elle a une histoire personnelle qui doit être résolue. Et je crois que ce retour, c'est pas seulement parce qu'elle veut aider les gens après de la révolution, comme qu'on a besoin, c'est un état d'urgence, que les gens, il y a quelque chose qui a été blessé, doit être soigné. Et pour elle aussi, à l'intérieur, je crois que ça, c'est une excuse pour elle pour pouvoir donner cette pousse, pour pouvoir retourner dans son pays natal et faire cette recherche un peu, mais très inconscient. Peut-être qu'elle peut pas intellectualiser ça, mais inconsciemment, elle cherche ça.
Je disais parce que des années de dictature, en fait, ce qu'on découvre en regardant aussi le film Un divan à Tunis, c'est que un système politique, donc extérieur à la psyché d'un individu, mais ça a en fait des conséquences évidemment intimes sur la vie psychique.
Bien sûr. Bah, c'est vrai que la dictature, bon, je pense qu'il y a des points communs à tous les peuples qui ont vécu sous une dictature, mais c'est vrai que bon, moi, je m'attarde sur la Tunisie. Et c'est vrai qu'avant la révolution, il y avait des légendes urbaines comme ça, des légendes ou de la réalité. Je serais même pas jugée. Mais par exemple, on pensait que ça revient un peu comme une running joke dans le film, mais que le Mossad avait vraiment mis des micros dans tout le pays avec donc la complicité du gouvernement. Et donc les gens n'osaient pas parler, notamment de politique dans les jardins ou même dans leur voiture. Il y avait une paranoïa comme ça. Parce qu'il y a tellement de cas d'arrestation arbitraire que les gens ont pu constater qu'il y avait une vraie peur. Et donc un des patients, lui, même si on l'aborde sous un angle un peu satirique, la réalité elle est tragique, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement qui ont été mis en prison parce qu'ils ont exprimé quelque chose de manière complètement anecdotique dans leur quotidien. La paranoïa, la peur de se livrer, la peur de se confier à un psy, même si elle dit qu'il y a le secret professionnel. Il y a des gens qui ne croient pas. Ils disent, mais chez les Arabes, il n'y a pas de secret professionnel, ça n'existe pas. Et parce que derrière, ça cache un traumatisme de la délation, de la dictature, des arrestations. Et ça, il faudra un petit peu de temps pour s'en défaire, quoi.
Depuis la révolution de 2011, est-ce que vous avez eu l'impression que justement il y avait quelque chose je vais le dire un peu rapidement, mais une psyché en souffrance dont on a mesuré, justement, on a pu mesurer l'impact de la dictature sur la psyché?
Alors, mesurer, d'un point de vue quantitatif, avec des études, ça je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pu observer clairement que...
Empiriquement.
Empiriquement, on est passé d'un état policier paternaliste avec un homme placardé dans tout le pays, avec une sécurité comme ça relative, parce qu'il n'y avait pas de menace islamiste, il n'y avait rien du tout, à un pays comme ça livré à lui-même, avec le spectre islamiste évidemment, l'arrivée du parti islamiste dans la course, beaucoup d'incertitudes économiques, le tourisme qui s'est effondré, enfin bref, un chaos. Et donc ce qu'on a aperçu d'une manière empirique, c'est des cas de dépression, de troubles anxieux, troubles paranoïaques. Et donc c'est pour ça que les consultations dans les instituts publics de psychiatrie et du coup qui font aussi de la psychothérapie ont augmenté. Oui, il y a une incertitude aussi, psychique et puis même émotionnelle, enfin. Et comme vous disiez, quand vous parlez de schizophrénie, c'est vraiment les gens aujourd'hui, sont dans cette quête d'identité, mais à tous les niveaux, quoi.
Il y a un personnage qui est très beau dans le film, c'est celui du voisin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
L'imam, vous voulez dire?
Oui.
Alors, ouais.
Qui a tout fait avec un rasoir pour se faire, petite marque sur le front, qui est censée être celle des grands croyants.
Exactement. Oui, je voulais aborder la religion de manière plus plus apaisé que ce qu'on fait, enfin ce que la fiction peut faire, en tout cas dès lors qu'on parle d'islam. Je voulais mettre en scène un imam déjà physiquement différent, plus jeune, spirituel, ouvert, intellectuel.
Qui ressemble à Woody Allen.
Absolument. Ça c'est vrai, il y a pas mal de gens qui l'ont remarqué. En fait, il lui ressemble à la base, et ce qu'on a rajouté, c'est les lunettes.
Physiquement, vous voulez dire.
Physiquement, oui. Pardon, je sais pas ce que
oui,
j'ai.
Oui.
Non, il lui ressemble physiquement, et après, on s'est dit bon, pour nous, on va lui mettre, on a essayé de trouver la même monture que les lunettes de Woody Allen. Donc ça, c'était le petit clin d'œil. Mais ce personnage-là, oui, c'est un homme de religion, mais on voulait pas, enfin, je voulais pas que la religion soit ce qui le caractérise. Son conflit, il est ailleurs. Il est effectivement, il a été rejeté de sa mosquée, comme beaucoup d'imams modérés après la révolution. Il y a eu vraiment beaucoup de troubles où les gens sont fait remplacer par des gens absolument inexpérimentés, barbus, et puis appartenant comme ça à la mouvance, qui avait le vent en poupe à ce moment-là. Et en même temps, je voulais aussi qu'il soit traversé par quelque chose d'assez, finalement universel, qui est un chagrin d'amour, quoi. Et ça le rend humain, ça le rend autre chose en fait que son simple statut finalement. Et ouais, c'est un personnage qui est avec qui Selma va aussi trouver une complicité.
D'ailleurs, il y a pas de terroriste dans votre film, il y a pas de flic corrompu, on évite les il y a au contraire même un flic très intègre avec qui on se dit qu'il pourrait se passer quelque chose avec Selma, mais c'est pareil, la comédie romantique, c'est une fausse piste.
Oui.
Ça,
oui, elle aime bien que, je sais pas,
elle aime bien jouer elle aime bien jouer avec ce policier qui, au départ, on se dit qu'il pourrait créer quelque chose, mais en fait, il vient lui chercher des noises en lui disant qu'elle n'a pas les...
Oui, en fait, tout ce qu'on attend, c'est pas tout ce qu'on attend. Elle, au début, quand on parlait avec Manel, bon, la première chose qu'on fait, on essaye de donner quelque chose aux flics et comme ça, ça y est, non, c'est comme ça qu'il marche en fait. Et avec lui, absolument pas. En fait, ça devient vraiment un labyrinthe qui est tout le film. Elle est obligée de trouver une solution parce que à la fin, elle a des vrais soucis à cause de cette tentation de petite offert qu'elle fait au début, ça y est, ça rentre dans le mauvais chemin.
Mais c'est vrai que le personnage du flic, c'est là encore, c'est un clin d'œil, comme bon, le cliché veut que tous les flics soient corrompus dans ces pays-là. Là, j'avais envie de trouver le seul flic non corruptible de ce pays. Il se trouve que c'est lui. Et par rapport à la comédie romantique, c'était aussi important pour moi de me dire, c'est vrai que souvent dans les comédies, le personnage féminin, son objectif, en fait, c'est trouver l'amour. Et dans son cas, non, en fait. C'est-à-dire que j'amène le spectateur à croire quelque chose et finalement on désamorce à chaque fois. Parce que finalement, l'enjeu de cette femme, il est ailleurs. Il y a une volonté de réparation intérieure, une quête personnelle, une quête professionnelle aussi. Et l'amour, c'est une option qui va se réaliser ou pas. Ça, j'en sais rien. Peut-être. On va laisser libre
le spectateur
à chacun d'interpréter.
Le film.
Mais c'était important, ouais, de créer comme ça des fausses pistes avec, en utilisant les codes et puis en les déconstruisant progressivement à mesure que le film avance.
Golshifteh Farahani, vous jouez d'ailleurs sur différents registres dans ce film. On peut vous voir assez ferme, parce que c'est psychanalyste, vous insistez pour être payé. La coiffeuse ne comprend pas qu'on puisse vous payer pour parler, alors qu'elle, dans son salon, tout le monde parle. Vous pouvez effectivement jouer sur la séduction un peu, au départ aussi, avec ce policier, ou sur d'autres registres. C'était amusant, comme ça, pour vous, qui êtes comédienne, d'essayer de donner différentes tonalités à ce personnage.
Oui, en fait, elle a pas du tout cette charme. Elle peut pas séduire. Elle a pas du tout, même au moment où elle doit vraiment, elle est un peu même amère.
Elle est trop sérieuse.
Elle est sérieuse et elle peut pas. En fait, c'est pas qu'elle veut. Elle est comme ça. Elle est pas comme les personnages dans les westerns, comme un cowboy. Oui, elle rigole pas. Elle peut pas séduire. Elle est sérieuse et elle peut pas plaire. Elle fait pas des gestes pour plaire les autres, même s'il y a des moments qu'elle peut, mais elle arrive pas, elle est bloquée à un moment donné, elle peut pas faire un petit commerce émotionnel avec les gens. Elle reste ferme jusqu'à la fin, et peut-être c'est ça aussi sa qualité dans son travail, dans sa profession, c'est qu'elle peut être assise et écouter les gens et les regarder. Et eux, ils ont même des fois un peu énervé parce qu'elle veut savoir qu'est-ce qu'elle pense, mais elle montre rien, elle est quand même.
C'est impassible.
Oui, elle regarde avec le même regard.
Manel Labidi, qu'est-ce qu'elle a de vous, alors, Selma?
Qu'est-ce qu'elle a de moi?
Vous allez me dire rien.
Non, mais non, c'est mon idée. Non, c'est pas, évidemment, c'est pas autobiographique. Non, enfin, il y a forcément des choses de moi, évidemment, parce que la thématique, voilà, du retour, comme ça, quelque chose qui m'a hanté, qui me hante. Et d'ailleurs, je pense que j'ai finalement accompli avec ce film. Je pense que l'idée de faire ce film, toute la, comment dire, la folie qui va avec, c'est un peu la démarche de cette psy. Parce que j'ai eu les mêmes remarques. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je vais me casser les dents, faire un film, un premier film en Tunisie. C'est n'importe quoi. Et je pense que voilà, le parallélisme, il est là. C'est sur l'idée d'aller retourner dans la terre, sur la terre de ses parents, pour aller chercher quelque chose d'intime, de réparer quelque chose. Ça, je pense, c'est ce qu'on a en commun. Après, pour le reste, je vais attendre quelques années pour la découvrir.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu de vécu dans les scènes avec l'administration, qui sont très, très, très drôles, on peut les décrire. Hein. C'est,
ah oui.
C'est une préposée qui est très... Elle est très sympathique.
Elle est toujours en train de manger des choses différentes.
Et elle est totalement inefficace, quoi, en fait.
Ah oui, bah oui, comme dans toutes les administrations du monde. Non, non, c'est vrai que l'administration, c'est quand même quelque chose d'assez universel. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'être tunisien pour être face à ce genre de blocage. Mais alors,
pour rire beaucoup de ces scènes.
Mais en tout cas, malgré l'incongruité comme ça de ces scènes, je peux vous assurer que elles n'ont rien de science-fiction, rien d'inventé. Quand on a montré le film en Tunisie, il y a des Tunisiens qui m'ont dit « Mais comment tu sais que ça se passe comme ça dans les administrations? Pourtant, tu n'habites pas ici. » Et en fait, bah, quand elle écosse les haricots, ça c'est du vécu. Il y a pas de, c'est pas de l'invention. Et c'est ça qui est marrant dans le film, c'est quand Goldshifteh, elle a lu le scénar, elle m'a dit « Ouais, t'exagères pas un peu parfois et tout. » Et quand elle est venue en Tunisie, au bout d'une semaine, elle m'a dit « En fait, non, mais on est en dessous, même. On est en dessous. » C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est parfois dans de l'ubuesque et en même temps, on est comme dans du grave, dans la même, voilà, dans le même mouvement. Et c'est ça que j'ai essayé de retranscrire sans vouloir d'ailleurs exagérer, quoi.
Vous parliez de réparation tout à l'heure. Est-ce qu'il a réparé, entre guillemets, hein, quelque chose, ce film?
Bah, réparer, oui, je pense, c'est sûr, parce que, indépendamment de tout ce qui va se passer, je veux dire, avec la sortie, tout ça, je suis hyper fière d'avoir fait ce premier film, d'avoir eu comme quelqu'un comme Goldshifteh qui accepte de jouer dans un premier film, dans mon film. Enfin, c'est un privilège incroyable, tout ce qu'elle a amené. Je dirais sur
j'ai jamais senti que c'était un premier film. En fait, c'était.
Bah non,
on
mais
dirait
c'est...
qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est vraiment.
Ouais, elle exagère, non, mais vraiment. Mais c'est. Enfin, moi, en tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui démarre dans ce métier, qui fait un film avec une actrice comme elle, avec qui amène toute son expérience, sa générosité et tout son instinct, on va dire, dans qu'elle a sur par rapport à son rapport à la caméra, par rapport aux autres acteurs. Enfin, c'était une partenaire à la mise en scène absolument incroyable. Et ça, c'est une chance. Et après, la chance aussi que j'ai, c'est aussi de d'avoir fait ce film en Tunisie, dans le pays de mes parents, qu'ils ont quitté fin des années 70. Il y a un truc très symbolique, très fort. Donc ça, c'est fait, quoi.
Et tout début de tournage, on est allé chez ses parents. C'était la journée de la fête et c'était un déjeuner avec tous les membres d'équipe, les Français qu'on est tous venus, parce qu'on était les étrangers, on était seuls.
C'était le jour de Leïd El Kébir.
Oui,
et tout le pays était mort.
Et on avait, on a mangé un déjeuner extraordinaire et c'était très très beau.
Donc ça a lancé le.
Ouais, c'était chouette.
C'est comme ça qu'on a commencé le film, vraiment.
Et finalement, c'était pas si difficile de tourner en Tunisie alors?
Comme tous les tournages, enfin j'imagine qu'un tournage c'est difficile. On a eu pas mal de contraintes, notamment je me souviens de la chaleur.
La chaleur.
Chaleur, c'était, il faisait plus de 40 tous les jours et puis quand on tournait dans
le cabinet, on s'en rend pas compte à l'écran.
On avait une bonne maquilleuse.
Ouais. Avec Baya, avec notre salon coiffeur qui tout était en train de fondre.
Entre les prises, il fallait repoudrer. Il faisait 50. Chaud. Même la caméra, elle s'arrêtait net par moment. Je pense qu'elle avait jamais été dans des températures aussi élevées. Donc la chaleur, ça a été quand même énorme. Et puis après, comme tous les films, et puis les petits films, il y a un manque de temps, il y a un manque parfois de, il y a des contraintes comme ça qui font que c'est pas évident. Mais on était bien soudés, il y avait une bonne équipe. Et puis les Tunisiens, les Français, voilà, il y avait aussi une solidarité quand même ça qui s'est créée. Il y a pas eu de trop de problèmes, je pense, du fait que ce soit une équipe biculturelle qui était là. Et au final, ouais, on a réussi à terminer, quoi. C'était ça, le but.
Une bonne fête de fin de tournage, finalement, à la fin.
Ouais.
Et là, vous disiez, le film, vous l'avez montré en Tunisie, il sort en salle, il est sorti.
Ouais, il va sortir, là, en 2020. On n'a pas encore de date fixe, mais il va sortir. Il a été vraiment bien reçu au JCC.
Journée cinématographique de Carthage.
Voilà.
Et bah oui, j'ai hâte qu'ils sortent. Vraiment, j'ai hâte qu'ils sortent là-bas parce que, en tout cas, les échos que j'ai eus des gens, c'est voilà, et beaucoup de rire et puis de l'émotion aussi parce que c'est ça, comme je vous disais, en Tunisie, on est toujours entre deux, quoi. Derrière le rire, il y a aussi les larmes et je pense que ça a touché certain nombre de personnes à ce niveau-là.
Golshifteh Farahani et Manel Labidi, merci. Je rappelle le titre de ce premier film, donc une comédie, prix du public à la Mostra de Venise, section journée des auteurs, Un divan à Tunis. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Une nouveauté signée Angélique Kidjo qui vient de remporter pour l'album Celia le Grammy Award du meilleur album de musique du monde. Ce titre, La vida es un carnaval.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no hay tesoro, siempre hay alguien. Ah, no hay que llorar. Saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esta nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ah, no hay que llorar.
Sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. On poursuit notre exploration des sorties cinéma de la semaine et on prend même un peu d'avance avec ce film Lettre à Franco. Après plusieurs longs métrages tournés à Hollywood, notamment grâce au succès du film d'épouvante Les Autres avec Nicole Kidman, Alejandro Amenábar revient tourner dans son pays, l'Espagne, ce film historique qui se déroule en 1936.
Attention! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con la ayuda de Dios, en toda España.
¡Viva la muerte! ¡Viva la
muerte! Intenta Don Miguel de Unamuno el más destacado lugar entre los...
Lettre à Franco suit un célèbre écrivain, Miguel de Unamuno, qui suit tous les jours un rituel invariable, retrouver deux compères intellectuels comme lui pour aller jouer au café. Le grand homme, poète et chrétien, vit alors à Salamanque et décide de soutenir publiquement la rébellion militaire contre la Seconde République. Il a alors la conviction que l'armée va rétablir l'ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires en Afrique, le général Franco prend les rênes de l'insurrection, les incarcérations d'opposants se multiplient et Miguel de Unamuno se rend compte que l'ascension de Franco est devenue inéluctable. Ce film a été projeté au dernier festival de Toronto et c'est là que j'ai pu rencontrer Alejandro Amenábar pour lui demander de nous parler de l'importance de cet écrivain en Espagne.
It's that kind of writer that you study when you are in high school.
C'est le genre d'auteur que l'on étudie au lycée, mais je ne connaissais pas son action en Espagne. Il y a cette citation célèbre.
Commonly said, say that is, "Venceréis, pero no conquereréis." You will conquer.
Vous gagnerez, mais ne convaincrez pas. Je ne savais pas qu'il en était l'auteur. Donc, quand j'ai découvert dans quelles circonstances il avait prononcé cette phrase, prenant la parole devant une assemblée de franquistes, je me suis dit « Waouh, comment était-il possible que je ne connaisse pas cet épisode ?» Et puis, je me suis rendu compte que je ne savais rien sur la guerre civile espagnole. J'ai commencé à faire des recherches sur le personnage, sur les positions de Miguel de Unamuno pendant la guerre, sur la prise du pouvoir par Franco et la dictature qui dura 40 ans. Cela m'a fasciné. Et cela m'a permis de parler de l'Espagne de nos jours. L'histoire de cet écrivain, ami avec des intellectuels engagés, torturé par les fascistes. Cela m'a fait penser à la situation actuelle, quand on voit la progression des idées radicales dans de nombreux pays.
En Espagne aussi ?
En Espagne aussi, les idées d'extrême droite progressent. Bien sûr, ce n'est pas comme Le Pen en France. Il y a moins de militants, mais on en a quand même. Il y a cette idéologie prégnante.
We do have it, and when you hear some things from their ideology, you get scared.
So your first idea was to make a movie about the civil war.
Et qu'est-ce qui est venu en premier pour ce film, l'envie de parler de la guerre civile ou de parler de cet écrivain en particulier?
Was interesting.
I think I started with Miguel de Unamuno.
J'ai commencé à m'intéresser à Miguel de Unamuno, ce qui m'a amené à enquêter sur la guerre civile, puis sur l'Espagne et enfin à la montée du fascisme à l'époque et ce que cela nous raconte du monde actuel.
Et Miguel de Unamuno est intéressant parce qu'il se rend compte vraiment tardivement et dans la vie et dans votre film de ce qui se passe.
Late and very lately in the movie.
Yeah. Well, the thing is that he, because he was against of what was already going on in Spain, we had to do with.
C'est vrai que dans un premier temps, il a soutenu l'armée car il était en désaccord avec la désorganisation du pays dans les années 30 et l'élection des républicains. Lui voulait juste de l'ordre. Il ne voulait pas voir ce qui allait se passer. On s'en rend compte dans le film. Il pouvait faire preuve d'arrogance intellectuelle et ça l'aveugle. Mais c'est aussi ce qui le rend intéressant car il est humain.
Is scared of what might happen for me makes him human, but what he did at the end.
Son discours à la fin, lorsqu'il prononce cette phrase devant les franquistes, « Vous gagnerez, mais ne convaincrez pas », donne du sens à sa vie. C'est un homme qui ne s'est jamais tu. Il a vécu en exil, c'était quelqu'un de très droit. Il a pris la parole en public devant les fascistes, c'était un personnage incroyable.
The most difficult moment of all, surrounded by fascists, it's what makes that character so incredible.
Dans le film, le personnage de Franco est ambigu, on le croit faible, on le voit hésitant à prendre le pouvoir. Et en même temps, il va finir par régner en dictateur sur l'Espagne pendant 40 ans. Et puis, il fait preuve d'un grand sens tactique.
That's what made the character interesting to me as well. Also because I think there are different Francos. There's Franco that.
Oui, il est intéressant, il y a plusieurs Franco. Il y a le Franco qui a combattu en Afrique, qui a dirigé la Légion, puis qui n'est pas pris au sérieux quand on parle de lui pour prendre le pouvoir. Ensuite, le Franco qui va finir par s'imposer lors du coup d'état militaire et devenir le père de la nation. Et puis il y a le grand-père. Dans le film, on le voit très hésitant, presque inoffensif. Il est fasciste et par moments ridiculisé par ses camarades. Mais en même temps, c'était le plus malin de tous. Si vous le comparez à Hitler ou Mussolini, c'est le seul qui a survécu. Il est parvenu à maintenir l'Espagne en dehors de la Seconde Guerre mondiale, puis il s'est rapproché des Américains et il est mort paisiblement en 1975.
Vous dites que vous ne connaissiez pas grand-chose à l'histoire de la guerre civile espagnole. Pourquoi ? Elle n'est pas enseignée à l'école ?
I think we don't know about our own history, particularly in that time. And I think it's been something.
Oui, on ne connaît pas notre histoire, particulièrement cette période-là. Je suis né en 1972. J'ai grandi au moment où la démocratie a été instaurée en Espagne. Et curieusement, à l'école, on n'enseignait pas les années 1930 et la guerre civile. Je pense que la société espagnole a refoulé cette période pour que la transition démocratique se fasse en douceur. On dit que cette transition est exemplaire, mais en même temps, elle a laissé des plaies ouvertes. On rencontre des problèmes identitaires. De nombreux républicains ont été jetés dans des fosses communes. On n'a pas encore purgé cette époque.
Lettre à Franco d'Alejandro Amenábar sort mercredi prochain sur les écrans français.
C'est peut-être ça que vous cherchez.
Qui êtes-vous ?
OSS 117. Pour vous servir.
J'aurais dû m'en douter, Chase !
Auf Wiedersehen, Herr Colonel. Et merci d'avoir choisi OSS 117 Airways. Ça va, Jack?
Ça va, Hubert.
Alors, allons redresser cet avion.
J'arrive.
Après avoir sévi en Égypte dans les années 50, puis au Brésil la décennie suivante, l'agent le plus nul des services secrets français, j'ai nommé OSS 117, reprend du service. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, c'est le titre du troisième volet de la saga. Le tournage vient de s'achever au Kenya. Les aventures de l'agent secret franchouillard, idiot et sûr de lui, incarné par Jean Dujardin, se déroule cette fois dans les années 80. Ce troisième film est réalisé par Nicolas Bedos, qui succède à Michel Hazanavicius. Charlotte Simonard, notre correspondante à Nairobi, s'est faufilée dans les coulisses du tournage. Costume cravate, sourire étincelant et cheveux gominés, OSS 117 entre en scène. Il n'a pas changé pour ce troisième opus, 10 ans que Jean Dujardin ne l'avait pas interprété. Un plaisir non dissimulé pour l'acteur principal.
Déjà dans le deuxième, l'époque avait évidemment changé et pas lui. Et là, ça se confirme. C'est-à-dire que décidément, il ne changera pas. Puis je pense qu'on a envie effectivement qu'il ne change pas d'ailleurs. C'est un colon français sûr de lui et qui ne fait qu'enfiler les clichés et on s'en amuse.
Le centre-ville de Nairobi plongé dans l'Afrique des années 80 pour les besoins du tournage. Voitures anciennes, costumes d'époque, tout y est, mais vous n'en saurez pas plus. L'équipe du film tient à garder le secret jusqu'au bout. Petite révélation, OSS 117 devra cette fois-ci composer avec un autre agent secret à ses côtés, Jean Dujardin.
Le fait de le mettre au contact de Pierre Ninet, qui est une autre génération d'agents secrets aussi, lui permet de prendre un petit coup de bourre et de s'amuser effectivement avec ses tourments aussi. Il y a peut-être un peu plus de psychologie d'ailleurs dans celui-ci.
Fais-moi ton regard s'il te plaît, Pamplemousse. Le point s'il vous plaît pour la caméra B.
Sur la chaise du réalisateur, Nicolas Bedos scrute le moindre détail de la scène. Pour ce troisième opus, il épingle la France-Afrique et le néocolonialisme.
C'est un film très à charge, très intéressant parce que je suis quand même fils de pied noir. L'antiracisme, le racisme, ce sont des réflexions dans lesquelles j'ai baigné. Mon père était extrêmement traumatisé par le racisme des colons parmi lesquels il a vécu quand il était enfant et adolescent. Et le film parle de tout ça, oui, du paternalisme des Blancs dans la France-Afrique des années 80.
Voilà. Une réalisation qu'il promet sans tabou.
On part de l'idée qu'il ne faut pas se faire museler par l'espèce de consensus actuel, d'indignation perpétuelle sur tout. Moi, je crois que parfois exprimer les monstruosités, c'est mieux que ça soit l'art qui s'en charge plutôt que les individus. Il faut filmer des cons, filmer des connards, filmer des porcs, filmer des gens méchants. C'est le travail aussi de la comédie, c'est le travail de l'humour de s'emparer de ces sujets-là, parce que sinon on va se faire chier, hein.
Les images promettent d'être spectaculaires, tournées en partie dans le nord du Kenya. Charlotte Simonard, Nairobi RFI. Eh bien, on a hâte de découvrir ce troisième volet de la saga OSS. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Merci, Charlotte Simonard. Enfin, on termine notre émission par les Oscars 2020, décernés dimanche dernier à Hollywood. Isabelle Chenu nous dit ce qu'il faut retenir de cette 92e cérémonie.
And the Oscar goes to... Parasite.
Un triomphe, 4 Oscars pour le film Parasite qui entre dans la légende. Meilleur scénario, meilleur film étranger et meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho. Cette satire cruelle sur le gouffre entre classes sociales en Corée du Sud avait déjà été récompensée par la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Bong Joon-ho est un cinéaste extrêmement doué qui a su à l'international imposer son style virtuose et spectaculaire.
Quand je suis venu chercher l'Oscar du meilleur film, je me suis dit que c'était fini et que j'étais tranquille pour le reste de la soirée. Merci. Quand j'étais jeune et que j'étudiais le cinéma, j'ai lu une citation que j'ai gardée profondément ancrée en moi. Le plus personnel est ce qu'il y a de plus créatif. Cette citation, c'est du grand Martin Scorsese.
Hommage de Bong Joon-ho au maître Martin Scorsese qui est reparti bredouille avec The Irishman malgré 10 nominations. Déception également pour le film qui partait favori, 1917 de Sam Mendes. Une immersion avec des soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Le film doit se contenter de 3 statuettes, ce n'est déjà pas si mal. Meilleure photographie, meilleur mixage son et meilleurs effets spéciaux. L'Académie des Oscars a en revanche privilégié les grands favoris du côté des comédiens. Meilleur second rôle pour la formidable Laura Dern, qui a été primée pour son rôle d'avocate impitoyable dans Marriage Story de Noah Baumbach. Tandis que Brad Pitt remporte à 56 ans, et c'est très étonnant au regard de sa carrière, son premier Oscar en tant qu'acteur. Second rôle dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Brad Pitt très ému.
Je suis pas du genre à regarder derrière, mais cet Oscar m'oblige un peu à le faire. Et je pense à mes parents, qui m'emmenaient au drive-in, voir Butch Cassidy and the Kid, à charger le coffre de la voiture pour venir ici, à Jenna Davis, à Ridley Scott, me donnant ma chance, et à tous les gens formidables que j'ai rencontrés sur le chemin. Once upon a time in Hollywood, il était une fois Hollywood, et c'est bien vrai.
Et puis, beau retour gagnant à Hollywood pour Renée Zellweger, qui remporte le trophée de la meilleure actrice pour son interprétation de la star légendaire Judy Garland dans le film Judy de Rupert Gould. Enfin, c'est Joaquin Phoenix qui est couronné meilleur acteur pour son rôle choc dans le film Joker de Todd Phillips, un homme sombrant dans la folie et le meurtre.
J'ai beaucoup réfléchi aux problèmes inquiétants auxquels nous faisons tous face. Et j'ai parfois l'impression que nous pensons ou que l'on nous fait penser que nous soutenons des causes différentes. Mais moi, je vois des points communs. Que l'on parle de l'inégalité des sexes, du racisme, des droits LGBT, du droit des autochtones ou du droit des animaux, nous parlons du combat contre l'injustice.
Lutter pour une meilleure égalité homme-femme, pour plus de justice et de diversité dans le cinéma, c'est le sujet à Hollywood, mais aussi à Paris. L'Académie des Césars est en pleine tourmente depuis des semaines. Dirigée par le producteur Alain Terzian depuis 2003, elle est accusée de ne plus représenter la réalité du cinéma français et d'être confisquée par une majorité d'hommes blancs et âgés qui se cooptent entre eux et sont membres à vie d'une société privée au fonctionnement opaque. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'arrivée en tête des nominations du film de Roman Polanski, J'accuse, un film dont la sortie avait été entachée par une nouvelle accusation de viol à l'encontre du réalisateur, la 12e. Les faits sont prescrits et se seraient déroulés dans les années 70. 400 personnalités du cinéma français ont publié une lettre ouverte la semaine dernière pour réclamer plus de démocratie et de transparence. Une tribune qui a certainement porté le coup de grâce à cette institution fossilisée dont les statuts ont très peu évolué. Ariane Ascaride, César de la meilleure actrice en 1998, était une des signataires.
La Société des Césars ne veut pas être un club de bridge un petit peu fermé où finalement, au bout du compte, on est un peu hermétique à ce qui est en train de se passer à l'intérieur et de la société et donc à l'intérieur du cinéma.
Sous la pression, l'Académie a promis de se réformer en profondeur et pour montrer sa bonne volonté, les 21 membres du conseil d'administration ont démissionné collectivement, un geste fort ou désespéré, on ne sait pas, pour tenter de sauver la prochaine cérémonie des Césars qui doit se tenir dans 2 semaines.
Florence Foresti, en forme et en souplesse, pour présenter la 45e cérémonie des Césars, vendredi 28 février, en clair, en direct et seulement sur Canal+.
Voilà, forme et souplesse, et il va en falloir à la maîtresse de cérémonie Florence Foresti pour éviter un fiasco lors de cette 45e cérémonie des Césars.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard et Pauline Leduc. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma. D'ici là, bonne semaine à tous.